Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
19h sur Radio Présence, bienvenue ensemble pour démarrer ce début de soirée. C'est Soif d'autre chose, l'émission de la paroisse étudiante. Très bonnes vacances si vous êtes en vacances, nous c'est le cas pour Soif d'autre chose. Donc vous allez retrouver dès maintenant toutes les meilleures chroniques et toutes les meilleures interviews depuis le début de la saison. Mais avant de démarrer cette émission ensemble, un peu de musique avec Joe Dassin, c'est Les yeux d'Émilie. Très bonne soirée sur Radio Présence.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire, moi.
Retour ensemble sur Radio Présence pour accompagner votre début de soirée. Alors on va retrouver un entretien qui vous a beaucoup marqué, que vous avez vraiment apprécié. C'est celui avec Philippe Foureau. Philippe Foureau qui nous a parlé de l'incarnation dans la crèche, notamment aussi des points de vue historiques de la naissance du Christ. Pour faire appel, Philippe Foureau, il est chroniqueur à Radio Présence, diacre permanent et maître de conférence à l'Université de Toulouse, Le Mirail.
Bonsoir Enzo, bonsoir Louis. Marie.
Donc oui, pendant cet entretien, donc on va parler un petit peu du lien historique entre la naissance de Jésus, la vie du Christ sur la terre et aussi évidemment le mystère de l'incarnation. Donc on va commencer très simplement en posant des bases très concrètes. Qu'est-ce qu'on sait historiquement du contexte de la naissance de Jésus ?
Je vais commencer en citant le grand médiéviste Marc Bloch. Marc Bloch était juif, agnostique, mais il a eu une phrase qui fait réfléchir tous les historiens du christianisme, puisqu'il avait dit « le christianisme est une religion pour historiens ». Et il partait du fait que, effectivement, dans la foi chrétienne, Dieu s'est fait homme. Et à partir de ce moment-là, effectivement, en se faisant homme, le Christ est entré dans l'histoire. Et ce qui est notable, c'est que si vous regardez les évangélistes, et si on lit attentivement les évangiles, ils se veulent souvent eux-mêmes historiens. Ils replacent dans un contexte le règne d'Auguste, le gouverneur Quirinius, Hérode le Grand, le tétrarque Hérode Antipas, que la vie publique de Jésus a commencé la 15e année du règne de Tibère. Bref, vous le voyez, il y a cette volonté de replacer Jésus dans un contexte historique. Et donc, ce contexte, pour le résumer rapidement, eh bien, Jésus est né sous l'empereur Auguste, sans doute aux alentours de 5-6 avant lui-même, si j'ose dire, avant Jésus-Christ. Il est ensuite entré dans la vie publique. Alors, les débats d'érudits hésitent entre 27, 28, 30. Et il a, en tout cas, parcouru ses terres de Galilée, de Judée, de Samarie, la ville de Jérusalem, à une époque où la puissance romaine administrait directement ou indirectement la région. Donc, nous sommes vraiment au début de ce qu'on appelait l'Empire romain avec la dynastie julio-claudienne, et il a été un sujet du roi Hérode, du roi Antipas, et puis il est passé devant le gouverneur, le préfet romain, Ponce Pilate.
Très bien. Et donc, concernant ces différentes sources-là, on a évidemment, comme vous l'avez dit, les évangiles, mais on a aussi des sources extra-bibliques, hein, si je puis dire, qui sont d'autres auteurs.
Oui. Alors, notre temps étant compté, je ne vais pas faire dans l'exhaustivité, mais je voudrais peut-être faire quelques citations. Et là, évidemment, je suis redevable de très nombreux historiens, exégètes, théologiens qui ont beaucoup travaillé sur cette question. On pourra peut-être donner quelques conseils de lecture tout à l'heure. Mais je voudrais partir, par exemple, de Flavius Josèphe. Flavius Josèphe, cet historien qui a écrit les Antiquités juives et la guerre des Juifs aux alentours de 90 du 1er siècle. Et voilà ce qu'il écrivait, et je vous propose en 2 minutes de faire un peu l'exégèse de ce texte. Il écrit au livre 18 des Antiquités juives, paragraphe 63-64, « En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens, qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas, car il leur apparut le 3e jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. » Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. Alors, ce texte, effectivement, a fait beaucoup couler d'encre et réfléchir les érudits, parce que il nous parle, effectivement, du Christ, mais honnêtement, il est indéniable qu'il a sans doute été retouché par un chrétien, parce que Flavius Josèphe est un juif pharisien. C'est un juif qui est resté fidèle à sa foi et à la foi de ses ancêtres, et si vous prenez par exemple l'affirmation « celui-là était le Christ », là vous sentez dans cette source historique une patte chrétienne. De même, si toutefois il faut l'appeler un homme. Or, pour tout juif, Jésus, c'est tout simplement un homme. Et enfin, dernier exemple, « car il leur apparut le 3e jour vivant à nouveau », les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Vous sentez bien là aussi la foi dans la résurrection. que n'avait pas Flavius Josèphe. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cet homme qui est capital dans notre connaissance du monde juif à l'époque de Jésus, évoque tout de même, effectivement, la figure de Jésus.
Et alors, justement, peut-on dater avec précision les grands moments de la vie de Jésus, sa naissance, sa mort? Parce qu'on entend souvent dans des cours d'histoire dire que non, zéro, l'année zéro n'est pas forcément l'année de naissance du Christ. Comment pouvons-nous avoir des précisions sur ça?
Oui. D'abord, il faut, je vais, Enzo, répondre, ou essayer de répondre à votre question. Mais d'abord, il faut d'abord s'interroger sur une thèse qui, depuis le 19e siècle, s'est diffusée, c'est la thèse du mythe. C'est-à-dire, Jésus n'est pas un personnage historique, c'est un mythe autour duquel s'est construit une spiritualité, une religion, mais le personnage lui-même n'a pas de réalité historique. Bon. Et pour nos contemporains, il y a un intellectuel qui a repris cette thèse, c'est Michel Onfray, le philosophe, qui estime que Jésus n'a pas de réalité historique, et il fait de Paul finalement celui qui est l'inventeur, entre guillemets, du christianisme. Alors, sur cette question, il me semble, et après avoir lu beaucoup de spécialistes, qu'il y a un argument fort, c'est l'argument des polémiques juives. Il y a eu, en particulier au IIe siècle, des polémistes juifs qui ont chargé, si j'ose dire, Jésus. En particulier, bien sûr, ils ont cherché à décrédibiliser la question de la résurrection, ou même critiquant Marie et la nativité telle qu'elle était présentée. Or, s'il y avait eu un doute, aux yeux de ces polémistes juifs, de l'existence historique de Jésus, inutile de vous dire qu'ils l'auraient clairement dit. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « Jésus n'a pas existé, c'est une invention », mais ils critiquent sa naissance, les conditions de sa naissance, de son activité publique, et bien sûr de la résurrection. Mais ce n'est pas remettre en cause l'existence. Et je pense que ça, c'est un argument important, parce que s'il y avait eu le moindre doute, il n'aurait pas hésité à utiliser cet argument. Alors, pour les questions que vous me posiez, alors la naissance, il semble bien qu'il faut remonter quelque peu la naissance du Christ. Alors, les érudits vont de 7 avant Jésus-Christ à 5, 4 avant Jésus-Christ. Ce qui est déterminant, c'est la mort d'Hérode le Grand. Parce que Hérode le Grand apparaît, par exemple, dans Saint Matthieu. Or, Hérode le Grand, par d'autres sources, dont Flavius Josèphe ou Nicolas de Damas, qui a été un de ses secrétaires et qui a laissé une biographie du souverain, nous permet de savoir qu'il meurt en 4 avant Jésus-Christ, selon le compute chrétien. Donc en fait, si vous voulez, il faudrait remonter un peu la naissance de Jésus. Nous sommes plutôt en 2031-32 peut-être, au lieu d'être en 2025. Bon. Ensuite, la question de l'entrée dans la sphère publique, quand est-ce qu'il se met à parcourir ces routes de ce qu'on appellera la Terre Sainte. Effectivement, on hésite entre 30 et 33, peut-être 28, 30. Un des grands érudits qui s'est penché sur cette question, le père jésuite John Paul Meyer, dans un livre qui est capital pour le Jésus historique, son premier volume intitulé « Les sources, les origines et les dates », pencherait par exemple pour une mort en 30, plutôt qu'en 33. Alors, il ne faut pas être fétichiste des dates, parce que, effectivement, dans l'Antiquité, de toute manière, que ce soit les effectifs ou parfois les dates, peuvent être effectivement sujets à caution. Mais retenons l'idée qu'il est né vers 6, 7 avant Jésus-Christ, peut-être 5, qu'il est entré autour de la trentaine d'années dans la vie publique, et qu'il a été exécuté, et pour les chrétiens, ressuscité, 30-33.
Et donc, justement, cette polémique juive de « on est sûr de la forme de l'existence du Christ », mais plutôt, là où la question se pose, c'est le fond, justement, sur cette naissance dans la crèche, Bethléem, Nazareth, etc. C'est bien ça?
Oui, alors, je dirais que, par exemple, vous avez, Enzo, prononcé le mot « crèche ». lisons les évangiles, la crèche n'apparaît pas. La ouais. crèche est une idée auquel je suis très attaché, mais que l'ordre des franciscains a surtout développé au XIIIe siècle, dans la, je dirais, la piété populaire, effectivement. Bon, il n'y a pas le mot crèche dans les évangiles. Bon. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde les évangiles, Marc et Jean ne s'intéressent pas à la nativité. Bon. Alors, je reviens aux polémiques juives. Un des points d'attaque des polémiques, si vous voulez, c'est la question de la naissance, la nativité par l'Esprit Saint. En fait, il y a toute une idée développée par certains polémistes juifs. En fait, Marie était une fille de mauvaise vie et elle a couché avec un centurion romain. Donc, si vous voulez, là, elle accumule les tares. Parce que non seulement elle est un peu jugée comme fille publique, et en plus, elle va avoir des relations amoureuses avec un officier de l'armée d'occupation romaine. Enfin, si vous voulez, le tableau est évidemment peu gratifiant.
Peu glorieux, donc, c'est très assombri. Ouais.
Et donc, si vous voulez, là par exemple, ensuite, il y a une remise en cause, mais là nous sommes à la fin donc, de la vie publique, c'est la question même de la résurrection.
Très bien, oui, donc concentrons-nous un peu plus sur la nativité et sur Noël qui approche. Là où il faudrait rester prudent, c'est éviter de tomber dans deux écueils. Le premier qui serait de réduire Noël à une simple légende, et l'autre de réduire Noël à simplement des dates et des faits. Et donc, comment est-ce que, à travers du coup ce contexte historique, on peut développer aussi sur des réalités qui sont un peu plus transcendante que seulement des faits historiques, mais quelle importance vient jouer aussi cet événement dans l'histoire du monde.
Alors vous avez raison, Noël pour les chrétiens, c'est à la fois un événement historique, au sens où effectivement, sous Hérode le Grand, Auguste étant empereur à Rome, il y a eu la naissance de Jésus. Mais évidemment, il me semble que si l'on se place d'un point de vue chrétien, c'est un événement qui dépasse le cadre de la naissance. C'est-à-dire, c'est l'incarnation. Dieu fait homme. Et c'est pour cela que je voudrais prendre une minute pour peut-être m'expliquer sur une expression que l'on entend des fois. Vous savez, la religion du livre, les religions du livre. Je crois que, et je, évidemment je ne suis pas le seul à en être persuadé, je réserverai l'expression religion du livre au Coran et à l'islam, qui repose sur le Coran. Je réserverai donc pour le monde juif la religion de l'alliance, avec un grand A, l'idée qu'il y a ce lien particulier qui se tisse entre Dieu et les hommes, et je garderai donc l'expression liée à Noël, Dieu de l'incarnation, religion de l'incarnation avec le grand I, c'est-à-dire que Dieu fait homme. Et pour les chrétiens, il ne faut jamais se lasser de célébrer Noël, parce que on pourrait se dire tous les ans, le 24 décembre au soir, revient la fête de Noël, vous voyez, une espèce d'habitude. Absolument, or en fait, c'est quelque chose, je dirais, qui est dans l'histoire vue d'un point de vue chrétien, et même sans doute au-delà, et quelque chose qui bouleverse tout, parce que Dieu s'est fait homme, ce qui est quand même une révolution spirituelle et historique.
Merci beaucoup pour cette première partie d'entretien qui était vraiment consacrée donc à la vie terrestre du Christ. On va faire une petite pause dans le thème de Noël. On va écouter Adeste Fideles qui a été enregistré en 2016 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Puis on se retrouve juste après pour parler un peu plus de la vie spirituelle justement par rapport à Jésus. À tout de suite.
Et donc de retour dans Soir d'autre chose, on est toujours avec notre invité du jour, Monsieur Philippe Foureau. Et juste avant la pause musicale, nous parlions du coup du mystère de l'incarnation et de la vie de Jésus d'un point de vue plutôt historique. Et maintenant on va plutôt basculer du côté spirituel avec d'abord une question pour faire un peu le lien entre les deux. Cette question c'est de savoir est-ce que ces connaissances historiques liées à l'incarnation et à Jésus peuvent alimenter notre foi, et si oui, comment ?
Alimenter la foi, je le crois. Si l'on part du principe, effectivement, que les évangiles sont à la fois des témoignages de foi, mais aussi des livres qui se veulent inscrits dans une histoire, eh bien, je dirais qu'il faut les lire et il faut effectivement les méditer. Mais je dirais ça, c'est presque trop facile. C'est-à-dire, on pourrait se dire, les évangiles nous suffisent et nous n'avons pas besoin d'autre chose, y compris pour réfléchir à notre foi. Mais, si vous permettez, Louis-Marie, j'aimerais faire deux incursions avec des auteurs latins qui ne sont pas du tout chrétiens. Et vous allez voir qu'on peut tout de même en tirer des éléments de foi. Je cite, par exemple, Suétone, la vie de l'empereur Claude, dans sa vie des 12 Césars, le chapitre 25 et verset 4. Voilà ce qu'écrivait Suétone. Et qu'est-ce qu'on peut, nous, on peut en tirer sur le plan de la foi ? Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Christos, il, c'est-à-dire l'empereur Claude, les chassa de Rome. Alors effectivement, Suétone évoque la figure de Christos, c'est le Christ, autour duquel il y a des disputes entre Juifs. Eh bien, ça veut dire que, sur le plan de la foi, le choix d'être chrétien et de le vivre, je dirais, en vérité, n'est pas un choix simple et aisé. Et effectivement, le Christ, peut-être, il l'a dit lui-même, un élément des fois où il peut y avoir la division, il peut provoquer le débat, il peut provoquer la stupeur. Et le choix de la foi chrétienne n'est pas toujours simple et... En lisant Suétone, on voit bien que dans la communauté juive de Rome, aux alentours de 41-42, il y avait des débats qui faisaient que ceux qui acceptaient la foi dans le Christ, dans l'incarnation, avaient peut-être des heurts avec les autres membres de la communauté. Et puis, deuxième citation, j'aimerais vous citer Tacite, le grand historien latin. Dans les Annales, à son livre 15, chapitre 44, il écrit ce texte aux alentours de 110-120 et il parle de la persécution sous Néron. En conséquence, pour étouffer la rumeur, Néron produisit comme inculpé et livra aux tourments les plus raffinés des gens détestés pour leur turpitude que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ que, sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. C'est un texte fort qui nous parle d'exécution de chrétiens. Mais je crois que le chrétien d'aujourd'hui, qui s'apprête à célébrer Noël, peut en tirer quand même des éléments importants pour sa foi et sa manière de la vivre. La foi dans le Christ, aujourd'hui, pour nous, elle peut paraître presque facile, banale. À Toulouse, les risques sont quand même minimes. Mais à ce moment-là, ces chrétiens, combien étaient-ils dans une ville de 800 000 habitants ? Peut-être quelques centaines, qui ont été amenés jusqu'au supplice, puisqu'on les a accusés d'avoir mis le feu à la ville, qui était sans doute d'ailleurs un accident, soit dit en passant. Eh bien, ils ont fait le choix d'aller jusqu'au bout de leur témoignage. Et je dois avouer que il faudrait que nos auditrices, nos auditeurs pensent toujours à ces chrétiens qui, aujourd'hui dans le monde, vont fêter la nativité, mais dans des conditions qui ne seront pas aussi confortables que les nôtres. Il y a quelques jours, je lisais comme quoi, depuis 2011 et le début de la guerre civile en Syrie, la communauté chrétienne a baissé de 80%. Beaucoup sont morts ou beaucoup ont dû fuir. Donc, si vous voulez, la fête de Noël, c'est aussi l'occasion d'être vraiment en union de prière avec ces communautés dont l'histoire de Tacite nous rapporte les lointains ancêtres, mais qui sont toujours dans la difficulté de vivre pleinement, tranquillement, la nativité. Donc, vous voyez... J'ai voulu prendre ces exemples, ces citations tirées d'historiens latins pour montrer qu'elles peuvent elles-mêmes nous, je dirais, nous faire réfléchir sur notre propre engagement chrétien.
Et entièrement, parce que c'est vrai que personne ne meurt pour un mensonge, et c'est vrai que si ces gens sont allés au bout de leur vie et encore aujourd'hui sont menés à la persécution, mais demeurent fidèles, c'est vrai que ça nous dit quelque chose quand même de l'ordre de la foi,
oui,
qui dépasse bien plus que ça les simples faits historiques. Et on voit vraiment que il y a eu vraiment un avant et un après, et ça c'est indéniable, non seulement concernant les persécutions, mais de manière générale aussi, l'impact qu'a eu l'incarnation a quand même été retentissant et se fait ressentir encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur quelque chose qu'on avait évoqué en première partie. On parlait de la crèche, justement, qui a été une invention, si on peut dire, un peu tardive. Quel sens on peut donner, du coup, et pourquoi est-ce qu'on a eu ce besoin de développer ces spiritualités, entre guillemets, de la crèche?
D'abord, la question de la crèche, effectivement, peut être liée aussi à des textes, soit apocryphes, qui ont pu évoquer, par exemple, la présence de l'âne et du bœuf, ou des textes médiévaux, comme la légende dorée, qui a, je dirais, embelli la nativité. Et, vous savez, je pense sincèrement que le chrétien, encore aujourd'hui, a besoin de ces signes qui, même si, je dirais, sur le plan historique, y avait-il vraiment l'âne et le bœuf, à la limite, peu importe, parce que c'est une manière, finalement, de les rendre, de rendre l'événement populaire au vrai sens du terme. Et c'est vrai que la crèche, bon, je vais enfoncer une porte ouverte auprès de beaucoup, mais enfin, quand en famille, on l'a fait avec les enfants ou les petits-enfants, et que l'on va mettre progressivement des bergers qui s'approchent, que le 24 au soir, on va mettre Jésus entre Joseph et Marie, eh bien ce sont des gestes de cette piété populaire auxquels nombre de personnes sont attachées. Et donc la crèche, finalement, elle fait partie de cette manière d'approcher Jésus. Et je me demande si elle ne facilite pas aussi, des fois, et je pense en particulier, mais pas uniquement, aux plus jeunes, des petits temps de prière, où ils peuvent se prier devant la crèche. Donc finalement, cette piété populaire, eh bien, oui, elle a une histoire, elle a véritablement quelque chose de plongé dans l'histoire, mais qui nous aide tout simplement à aller vers à la fois le mystère et la grandeur de Noël.
Et alors, aujourd'hui, enfin, que se passe-t-il, justement, comme les sources qu'on a évoquées, donc en première partie, deviennent des textes de foi?
Alors, parmi les auteurs, quand même, que j'ai cités, vous avez compris que tous ne sont pas effectivement des textes liés à la foi. C'est-à-dire que Tacite, qui, vous l'avez compris, quand même, n'est pas très chrétien, puisqu'il dit qu'ils étaient détestés, les chrétiens, pour leur turpitude. On sent bien, quand même, le sénateur romain, qui n'a pas de sympathie particulière. Non, vous avez, effectivement, Tacite, Suétone, confirme plutôt, je dirais, l'historicité de la personne de Jésus et d'une communauté qui se réclame à lui. Par contre, vous avez effectivement des éléments d'évangile qui servent tout simplement notre foi. Ce qui m'interroge, et je n'ai pas de réponse, je ne fais que poser la question, c'est qu'on peut constater que Luc et Matthieu sont utilisés effectivement pour les messes de Noël, mais on ne peut pas utiliser Marc, parce que Marc, par exemple, ne s'intéresse pas à la nativité. C'est assez étonnant. Et quant à Jean, ben, je dirais, il s'intéresse à Jésus, il est déjà en train de commencer sa vie publique. Ouais. Donc finalement, pour Jean et Marc, la nativité, c'est chose acquise. C'est fait, le Christ est incarné parmi les hommes. Et donc, il faut se rabattre vers Matthieu et Luc, qui, eux, alimentent notre réflexion, notre foi. Et je voudrais, si vous me permettez, prendre par exemple l'évangile qui a été lu dimanche dernier à propos de Jean le Baptiste, qui envoie une délégation pour dire, mais enfin, est-ce que c'est toi véritablement le Messie? Ce que il me semble important à retenir, entre autres, de cet évangile, c'est que tout de même, l'annonce de l'incarnation se fait souvent dans l'humilité des hommes. Parce que Jean le Baptiste, si on retient bien la tradition chrétienne, sa peau de chameau, ses sauterelles et son miel, c'était vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, vous l'auriez à SDF, si j'ose dire. Il choquerait. Il ne choquait pas à son époque parce que il répondait à une attente. Mais enfin, il devait irriter bien des notables de son époque. Et finalement, c'est dans cette humilité que cet homme, vivant humblement, annonce l'humilité de Dieu dans la nativité. Parce que, tout le monde le sait parmi nos auditeurs et nos auditrices, mais enfin, le Christ n'est pas né dans le palais d'Hérode ou dans le palais du gouverneur à Césarée maritime. Il est né modestement. Dieu s'est fait homme dans l'humilité. Et je crois que cette humilité peut nous servir aussi à garder dans nos prières, dans notre volonté d'honorer l'incarnation, cette humilité qui doit alimenter notre vie. On est chrétien, on l'affirme, mais sans ostentation particulière et sans orgueil. C'est tout simplement un témoignage qu'on nous demande dans notre vie.
Oui, c'est vrai qu'on prend un exemple vraiment sur la simplicité et l'humilité de l'incarnation. On parlait du coup des évangiles de Marc et Luc qui en parlent du coup très, très concrètement. Mais pour revenir un peu sur Saint Jean, certes, il ne parle pas forcément de l'incarnation d'un point de vue très concret ou très visible. Mais dans son prologue, il parle quand même du Verbe qui s'est fait chair et il vient quand même annoncer quelque chose.
Alors, je ne dis pas qu'il ne parle pas de l'incarnation, il ne parle pas de la nativité.
Oui, voilà, c'est ça.
La nativité semble fait acquis.
Oui, comme un événement.
Un fait acquis. Alors, est-ce que c'est lié d'ailleurs le fait que c'est peut-être le dernier des évangiles et qu'il estime qu'il n'a pas de
redit à faire ? Ça a déjà été dit.
Oui. Ou que, voilà. Mais je vous rejoins tout à fait. Il est même, si j'ose dire, pétri d'incarnation. Mais c'est plutôt, effectivement, cette idée de la nativité que vous retrouveriez chez Luc et Matthieu. Quant à Marc, observons que lui-même ne traite pas de la question de la nativité.
Là où du coup on peut penser que ce serait peut-être pas forcément par laxisme, juste par comme on l'a dit par acquis, mais d'apporter quand même plus de profondeur sur ce temps-là qui est si important, parce que même si en effet tous les évangiles n'en traitent pas explicitement, c'est vrai du coup voilà on fait ce lien du coup entre la nativité comme événement précis, mais qui vient aussi être la révélation et juste l'accomplissement au final de ce mystère qu'est le mystère de l'incarnation. Et comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut recevoir du coup cette première étape du mystère de la rédemption, en commençant par ce mystère-là de l'incarnation ?
Très difficile question. Ce que je m'efforce d'expliquer quasiment tous les ans auprès d'amis chrétiens ou non chrétiens, éventuellement dans une homélie comme diacre, c'est que le danger qui nous guette, c'est finalement la force de l'habitude. Et c'est-à-dire que, voyez, nous avons l'habitude à 21h de mettre la télévision pour regarder un bon film, ou en tout cas ce qu'on considère comme un bon film. Vous voyez, or, la nativité, ce que je demande vraiment à mes frères et à mes sœurs, c'est d'essayer de voir l'émerveillement que tous les ans nous sommes appelés à avoir. Parce que tout de même, c'est un événement qui, pour nous chrétiens, vous le disiez, Louis-Marie, tout à l'heure, il y a un avant et un après. Et si on commence à banaliser en disant « oui, bon, on va aller à la messe, mais on va chanter les mêmes cantiques, on va sans doute entendre le même évangile, etc. » Non, non, il faut vraiment essayer d'arriver, comme ces enfants dont parle aussi l'évangile, avec le cœur simple et de nous dire « mais Dieu s'est fait homme et ne nous lassons jamais » de le dire, de l'affirmer, parce que pour nous chrétiens, c'est véritablement fondamental. Surtout ne pas banaliser Noël, malgré les habitudes plus ou moins bonnes que nous pouvons avoir.
Merci beaucoup, Philippe Foureau, pour cette
avec grand plaisir. Entretien.
Et voilà, un grand merci à Philippe Foureau pour cette interview et ce grand entretien. Tout de suite, un peu de musique avec Galas et Fried From Desire. Très bon début de soirée à l'écoute de Radio Présence. On est ensemble jusqu'à 20h. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more.
freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
C'est déjà la fin de Soif d'autre chose. Nous étions très heureux de vous accompagner pour votre début de soirée juste ensemble jusqu'à 20h. La semaine prochaine, vous retrouverez Louis-Marie et moi-même en direct à 19h sur Radio Présence pour la dernière de la saison pour vous raconter quelques petites anecdotes, quelques petites surprises au programme. Quant à nous, on vous souhaite un très joyeux Noël, heureux et saint Noël. Soyez assurés de nos prières. Faites attention à vous, à vos proches, aux plus faibles. Très bonne soirée sur Radio Présence. Tout de suite, des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.